Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du tarot avec la tarologue Hélène Huc, l'autrice de Tarot de l'Unité, une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin chez Tana Édition. Cette ancienne professeure d'italien nous invite à découvrir le tarot sous un nouveau jour, bien loin des clichés du tarot de la voyance. Dans ce podcast, Hélène nous explique sa démarche initiatique ainsi que les points suivants. Comment le tarot est entré dans sa vie ? Comment le tarot est un miroir de la psyché humaine et une source de connaissance de soi avant d'être un outil de prédiction ? Comment le tarot est un outil utile à l'épanouissement personnel ? Et comment le tarot et la numérologie nous aident à envisager les enjeux de l'année 2021 ? Bonjour Hélène !
Bonjour Amal !
Ben, merci de nous recevoir.
Et avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée.
Alors Hélène, je rappelle, vous êtes l'autrice du livre « Tarot de l'Unité », une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin chez Tana Édition.
Voilà, il est là, le bébé.
C'est ça, exactement. Alors Hélène, j'ai été très surprise en lisant votre ouvrage, parce que quand j'ai découvert effectivement votre ouvrage, je m'attendais plus à un livre sur la voyance, en fait, puisque le tarot est aujourd'hui un objet en fait qui est associé à la prédiction, à la voyance. Mm-hmm. Or, c'est pas du tout ce que vous mettez en avant dans votre livre. Donc, c'est quoi aujourd'hui le tarot ? Comment vous l'utilisez et à quoi ça fait référence ?
Alors, c'est vrai, je vous rejoins. Il y a une aura particulière autour du tarot et qui tourne beaucoup autour de la divination, la prédiction, et on l'associe volontiers à toutes ces disciplines qui permettent de voir l'avenir. Ça peut être effectivement un support qui peut servir à ça. Là où je nuancerai un petit peu, c'est que quand même depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, tout doucement, le tarot commence à rentrer quand même dans, on va dire, dans la sphère du développement personnel, du développement spirituel, et que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par des coachs, des psychologues, tout un tas de gens qui accompagnent avec le tarot, en développement personnel, en connaissance de soi, et dont j'ai fait partie, puisque moi, j'ai commencé ma carrière de tarologue en faisant des séances individuelles, des groupes, des ateliers, et en accompagnant beaucoup les gens sur le terrain de la connaissance de soi. Donc, c'est vrai que même si encore, dans la globalité, dans l'esprit des gens, la majorité des personnes associent tout de suite tarot et voyance, il y a quand même, ça progresse. À force de diffuser, de pédagogie, etc., les gens commencent aussi à savoir, à comprendre que le tarot peut servir à autre chose. Et c'est vrai que moi, depuis 10 ans, mon ambition, mon but, mes transmissions, elles se tournent vraiment vers une utilisation du tarot qui sort complètement de la sphère prédictive. Donc moi, je ne l'utilise absolument pas comme un outil de prédiction, de divination, même si on pourrait faire une différence entre la divination et la prédiction. Ce sont deux choses un petit peu qui peuvent paraître similaires, mais qui sont en fait, il y a des nuances à faire. Pardon ?
Rapidement, les nuances entre
divination. En fait, la divination, le fait de pratiquer la divination, en fait, ça relève de l'acte donc de deviner, hein, puisque étymologiquement, c'est le même mot. Et c'est cette idée de capter en fait des informations qui circulent de manière sensible, hein, par le biais de différents supports. Donc, on peut faire de la divination avec les cartes, on peut faire de la divination avec les runes, on peut faire de la divination... les Romains faisaient de la divination en lisant le vol des oiseaux, ce qu'on appelait les augures. Et c'est vraiment une tradition, la divination, qui remonte très, 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 très loin dans l'histoire de l'humanité. La prédiction est une branche de la divination. La prédiction, c'est vraiment cette branche de la divination qui consiste à vouloir donc deviner l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Hein, dans la divination, on peut simplement essayer de chercher des réponses à un contexte, à une situation, à savoir si c'est le bon moment pour agir, etc. La prédiction, c'est vraiment quelque chose de plus événementiel où on va chercher à savoir avec précision voilà, ce qui va m'arriver demain dans telle et telle situation. Donc, voilà la petite nuance que je ferai entre les deux. Et moi, du coup, mon approche du tarot, ma démarche, elle est avant tout initiatique. Elle est symbolique et elle est aussi énergétique. Donc, je considère que le tarot, en fait, est un miroir de la psyché humaine. Pour moi, c'est un livre de sagesse qui contient des enseignements. Et à mesure qu'on plonge en fait dans la connaissance symbolique de ces cartes, on apprend à se connaître soi, on apprend aussi à connaître le fonctionnement de notre univers, à mettre un sens aussi sur les épreuves que l'on traverse. Et c'est le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et donc pour moi, le tarot, c'est vraiment une source de connaissance de soi avant d'être un outil de prédiction. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé d'abord d'une manière, je dirais, projective, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tire une carte du tarot, eh bien, ça va me renseigner sur mon état émotionnel, mon état énergétique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là, parce qu'en fait, le tarot, c'est comme un miroir, je vais projeter ce qui se passe dans ma psyché, ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment précis. Et donc, en faisant ce va-et-vient entre des connaissances symboliques et donc l'extérieur quelque part et l'intérieur, eh bien je vais arriver à syntoniser les deux et à obtenir une photographie, un instantané de la manière dont je me positionne moi en tant qu'individu, en tant qu'être humain dans ma vie, dans mon environnement. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Et puis au fur et à mesure des années, plus j'ai avancé, plus j'ai cheminé, plus je suis allée encore plus loin dans la connaissance du tarot. Et j'ai, comme je m'intéresse à énormément de disciplines ésotériques depuis toujours, en fait, j'ai fait des ponts avec l'alchimie, avec le processus alchimique, qui est un processus donc, de transformation intérieure. Et j'ai remarqué que voilà, le tarot et l'alchimie, en fait, avaient des mécanismes communs, et c'est notamment en partie de ça dont je parle aussi dans mon livre et que j'ai essayé de rendre accessible au plus grand nombre. Donc moi, mon ambition, c'est vraiment de dépoussiérer le tarot Madame Irma, le tarot voyance, tout ça, j'estime que c'est vraiment pas le plus intéressant dans le tarot, même si ça peut être utilisé de cette manière-là. Moi, j'avais envie vraiment de faire connaître le tarot dans ce qu'il a pour moi de plus riche, de plus profond, et dans ce message magnifique qu'il a à nous apporter.
Comment le tarot est rentré dans votre vie, Hélène ?
Alors, il y est rentré assez progressivement parce que la première fois que j'avais un jeu de tarot, j'ai eu un jeu de tarot dans les mains, je devais avoir entre 22 et 23 ans. C'était chez mon frère aîné. Voilà, il avait un jeu de tarot avec le livre de Jodorowsky sur son étagère. Et j'ai commencé à regarder les cartes. Ça m'a impressionnée. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, qui me parlait, mais j'étais un peu, voilà, peut-être un peu effrayée. J'étais peut-être pas prête. Donc j'ai quand même acheté un jeu de tarot, mais je l'ai gardé dans un coin et puis je me suis pas trop intéressée à ça. Et c'est à peu près voilà un peu moins d'une dizaine d'années en fait après, un peu avant la naissance de mon fils, un peu avant ma grossesse, que voilà j'étais déjà enseignante dans l'éducation nationale parce que moi j'ai enseigné pendant 17 ans en lycée, j'étais professeure de langue et je m'épanouissais pas du tout mais vraiment pas du tout dans mon métier. Je sentais que voilà, j'allais devoir prendre des décisions et préparer une reconversion parce que vraiment, je me sentais pas à ma place. Et c'est le tarot qui, à un moment donné où voilà, j'allais assez mal, même sur le plan de la santé physique, j'ai eu quelques soucis assez importants qui m'ont poussée à m'arrêter pendant plusieurs mois. Et en fait, c'est le tarot là, qui est revenu par tout un tas de synchronicités. Hein. Vous savez, c'est ces rendez-vous, à un moment dans la vie, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous parle du tarot, puis encore une autre personne, et puis vous tombez sur un livre, et puis... Et en fait, l'étau se resserre. Et là, je me suis dit, bon, il y a vraiment un truc à faire avec cet outil. Et je me suis d'abord plongée dedans un petit peu toute seule en autodidacte. J'ai lu quelques livres, j'ai découvert le référentiel de naissance, qui est un outil aussi de développement personnel et de connaissance de soi qui a comme support le tarot de Marseille. Et après la naissance de mon fils, j'ai décidé de me former en parallèle de mon métier d'enseignante. Donc, je me suis formée au référentiel de naissance. Puis, j'ai découvert tout un monde, en fait, que je ne connaissais pas. Enfin, que je ne connaissais pas dans ma vie quotidienne, mais que j'avais l'impression de connaître à l'intérieur de moi. C'est comme si je retrouvais la mémoire, en fait, au fil de mes stages, de mes formations, voilà, de toutes ces découvertes-là. Et voilà, et pendant plusieurs années, patiemment, j'ai tissé le fil de cette reconversion. Donc, j'avais mon activité d'enseignante en lycée. Et puis, en parallèle, j'avais aussi le temps, la possibilité de développer mes connaissances, ma pratique, des accompagnements donc en direction de consultants, de personnes qui venaient me voir, etc. Et alors, puis j'ai fini par faire la bascule. Voilà.
Alors, vous parliez du référentiel de naissance, Hélène.
Oui.
C'est pour ceux qui nous écoutent.
Alors, le référentiel de naissance, c'est ce qu'on appelle aussi un thème tarologique qui a été mis au point par Georges Colleuil dans les années 80. Georges Colleuil, qui est psychothérapeute, conférencier, écrivain, et qui a mis au point donc ce thème tarot qui se calcule en fait à partir de la date de naissance de la personne. Et on va monter comme ça 13 maisons qui correspondent à des domaines de l'incarnation. Et dans chacune de ces maisons, par le biais du calcul, il y a une des 22 arcanes majeures du tarot qui va venir se positionner, qui va venir donner une couleur à cette maison. Donc, ça va nous indiquer nos ressources, nos défis, notre chemin d'incarnation, notre bagage transgénérationnel, voilà, tout un tas de choses qu'on va pouvoir explorer à travers le tarot et qui va nous donner des clés très, très précieuses pour cheminer, pour mieux nous connaître, pour... révéler notre plus haut potentiel. Donc moi, j'ai été formée à cet outil et j'ai accompagné pendant de nombreuses années les personnes que je recevais en séance individuelle à mieux se connaître. Voilà.
Wow. Vous mettez en avant aussi dans votre livre la réconciliation entre le féminin et le masculin.
Ouais.
Vous pourriez développer ce que vous mettez derrière cette réconciliation entre ces deux genres, en fait.
Oui. Alors ça, en fait, tout est parti du moment où j'ai été contactée par les éditions Tana pour écrire un livre. Donc, on est venu me chercher en me disant, voilà, Hélène, est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre sur le tarot ? Et peut-être de faire des passerelles avec le féminin sacré, puisque moi, c'est vrai que sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis tarologue, mais je chemine aussi sur des voies initiatiques, donc la spiritualité égyptienne et aussi la voie de Marie-Madeleine. Donc, tout ce qui touche au féminin sacré, à la sexualité sacrée, etc. Donc, quand on est venu me chercher en me disant, voilà, ça serait intéressant peut-être de faire des ponts entre votre pratique de tarologue et toutes ces questions du féminin dont vous parlez beaucoup. Donc, moi, ça, évidemment, ça m'a enthousiasmée. Je me suis dit, ouais, c'est une super idée, d'autant que ça n'a jamais vraiment été abordé sous cet angle-là, le tarot. Et je trouvais ça voilà, audacieux, ambitieux. J'avais envie de m'y coller. Et puis, plus je réfléchissais à l'écriture de ce livre, plus j'avançais, je prenais des notes, je commençais à écrire des choses. Et plus je me disais, le tarot et le féminin, ok, mais il manque un truc. Il manque un truc, il y a quelque chose qui n'était pas aligné pour moi. Et au fur et à mesure des semaines et des mois de gestation, hein, avant le passage à l'écriture, je me suis dit, mais... En reconsidérant tout mon parcours professionnel, mais aussi et surtout mon parcours personnel, mon parcours de femme, je me suis rendu compte que ma quête à moi, c'était la quête du couple, une quête d'amour, la quête de l'autre, la quête de la complétude. Et que le tarot m'avait enseigné un certain nombre de choses sur ce chemin-là pendant toutes ces années. Et je me suis dit, je vais écrire un livre sur le tarot et le féminin, mais je ne peux pas parler du féminin sans parler du masculin. Parce que tout ce cheminement de ces 10 dernières années m'a mené à comprendre que, d'une part, j'avais besoin de me reconnecter à mon féminin, qui, bah, comme toutes les femmes aujourd'hui, a grandement besoin de soutien. On a besoin de révéler cette puissance du féminin, de la positionner, de la faire vivre en soi au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Je pense que c'est un grand questionnement d'actualité. Mais je me suis aussi rendu compte que mon féminin avait besoin de mon masculin pour être soutenu. Donc il y avait cette notion de couple intérieur que j'avais déjà rencontrée dès le départ de mon chemin avec le tarot, puisque j'ai beaucoup lu Jung. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de Carl Gustav Jung, ce psychanalyste suisse, dans mon livre, puisque j'ai fait des ponts aussi entre le tarot et cette psychologie des profondeurs jungienne. Et Jung parle beaucoup hein, du couple intérieur, donc de animus et anima. En fait, animus, c'est la part masculine chez la femme dans la psyché féminine, et anima, c'est la part féminine dans la psyché masculine. Et en fait, toute cette mouvance hein, de la psychologie des profondeurs part du postulat que chaque être humain, quel que soit son genre, si je suis une femme, je vais avoir à l'intérieur de moi donc ce contrepoint masculin, cette énergie masculine dans ma psyché. Et inversement, tous les hommes vont avoir à l'intérieur d'eux cette part féminine vers laquelle il va falloir qu'ils cheminent, il va falloir qu'ils rencontrent cette part féminine pour devenir des individus, des êtres complets. C'est ce que Jung appelle le parcours d'individuation. Et je me suis rendu compte, en lisant Jung, en pratiquant le tarot, que en fait, le cheminement initiatique que nous proposait le tarot, c'était exactement ça. Le tarot nous fait partir de l'arcane du battleur, qui est celui-ci, qui est l'arcane numéroté 1, donc c'est le tout début du chemin, vers l'arcane du monde, qui est le dernier arcane numéroté. Alors, il y en a un 22e, c'est le mat, il ne porte pas de numéro, mais il fait quand même partie des arcanes majeurs. Et en fait, tout ce chemin entre le battleur et le monde, c'est un chemin qui nous amène à recontacter cette unité intérieure, c'est-à-dire se confronter à des archétypes masculins et féminins, pour les unifier, les harmoniser, les réconcilier et devenir cet être total, cet être accompli, cet être unifié, harmonisé à l'intérieur de soi. Et je me suis rendu compte que dans ma quête d'amour, dans ma quête du couple, dans ma quête de l'autre, si je voulais faire couple à l'extérieur, moi qui ai eu un parcours personnel un peu chaotique, eh bien, c'est peut-être qu'à l'intérieur de moi, ce couple primordial, ce masculin et ce féminin, en fait, se faisait la guerre. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord, peut-être qu'il y avait des déséquilibres, qu'il y avait des choses à réharmoniser. Et c'est tout ce processus-là que j'ai voulu retranscrire dans le livre à travers mon cheminement personnel et ma lecture, ma grille de lecture à moi, donc qui est une grille de lecture alchimique que j'ai transposée donc sur ce chemin initiatique à travers le tarot pour aller réconcilier ce masculin et ce féminin. Et je crois que c'est aussi vraiment un thème d'actualité parce que déjà, bon, ce livre, il a été, j'ai mis le point final à ce bouquin pendant le premier confinement. Donc, dans cette année 2020 qui nous a tous et toutes éminemment bouleversés, secoués, et je me suis rendu compte à quel point, voilà, quand il est sorti, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment un sujet d'actualité, de faire cesser cette guerre des sexes à l'extérieur. Elle va passer avant tout par une réconciliation intérieure. Hein. On parle beaucoup de féminisme, du patriarcat qui est en train vraiment de se déliter. Et je pense que ça fait vraiment partie des enjeux de mutation de notre monde, de notre société actuelle. Et c'est pour ça que je crois que, voilà, très humblement, très modestement, mon livre, c'était aussi une façon d'apporter un peu de réflexion, ma pierre à cet édifice-là. Voilà.
Comment justement le tarot peut nous aider à envisager clairement, plus clairement 2021?
Alors, comment le tarot peut nous aider à envisager plus clairement 2021? Moi, c'est vrai que comme je vous le disais, je ne me sers pas du tarot comme un outil de prédiction. Donc, je ne vais pas nécessairement tirer des cartes pour voir voilà, qu'est-ce qui va se passer en 2021. Mais je regarde beaucoup la numérologie, donc, c'est-à-dire les nombres. Donc, 2021, ça renvoie à cet arcane du monde, hein, puisqu'il y a 21. Donc là, on sort d'une année 2020 qui était une année marquée par l'arcane du jugement. Donc, on a eu peut-être un réveil massif des consciences avec cet ange-là qui vient sonner sa trompette et qui ne laisse pas trop le choix que de voir, d'entendre un certain nombre de choses et qui vient nous secouer la pulpe du fond, comme j'aime bien le dire souvent. 2021, donc on est toujours sur ce 20 et 21, donc c'est une transition. Hein. On va donc vers l'arcane du monde qui est symboliquement, justement, une année où cette question du féminin va être centrale. Alors, pas au sens où le féminin va reprendre une certaine forme de suprématie vis-à-vis du masculin, puisque justement, le but, c'est pas de perpétuer cette guerre, de savoir qui est plus fort ou plus important que l'autre, mais c'est d'arriver à un équilibre. Et donc le monde c'est cette idée de remettre au centre du monde des valeurs féminines. Donc ces valeurs là il va falloir qu'on se questionne sur un certain nombre de choses. Et le monde, c'est quoi? Le monde, c'est aussi Gaïa, c'est aussi notre planète, c'est la Terre, c'est comment est-ce qu'on prend soin de notre Terre. C'est ça aussi les valeurs féminines. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être un questionnement encore plus prégnant, encore plus accru sur ces domaines-là. Et puis, si je réduis 2021, ça fait une année 5. Et 5, c'est l'arcane du pape. Alors, en 2020, on était sur une année 4. Hein, si j'additionne 2-0 plus 2-0, ça fait 4. On sort d'une année qui était marquée par l'arcane de l'empereur. Je me permets de faire la transition entre 2020 et 2021 parce que je pense que ça peut être intéressant justement de voir comment on va basculer de l'un à l'autre. On arrive sur... On sort d'une année empereur, c'est-à-dire une année qui nous a demandé... qui nous a confronté à un pouvoir extérieur qui nous a imposé des limites, où on a beaucoup été confronté à des interdictions, à rester chez soi. L'empereur vraiment représente hein, ce pouvoir extérieur, ce gouvernement, ce, ces interdictions, ces limitations au niveau du territoire. Ça nous a aussi demandé d'aller regarder notre pouvoir personnel à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on exerce notre pouvoir personnel face à ce pouvoir extérieur? Donc, il y a pu y avoir une certaine forme de confrontation face à une autorité. Et on l'a bien vu cette année.
Tout à fait.
Et on passe en 2021 avec un autre archétype, alors qui est aussi un archétype paternel, comme celui de l'empereur. Mais là, le pape a une dimension plus spirituelle. Alors, je ne sais pas trop de quelle manière ça va se manifester, parce que comme je vous le disais en off, je ne suis pas Madame Irma. Mais en tout cas, je pense que ça peut nous confronter aussi à un certain dogmatisme. Je pense qu'on va aller chercher peut-être des réponses. On va avoir besoin encore plus d'aller trouver du sens dans peut-être une certaine forme de spiritualité, dans une peut-être les religions aussi, hein. Il peut y avoir des questionnements là-dessus en 2021. Mais attention, attention au dogmatisme, attention aux faux prophètes, attention au fanatisme, attention voilà, à toutes ces choses-là qui pourraient nous détourner de notre maître intérieur. Parce que le pape, il parle aussi beaucoup de ça. Il est l'intercesseur entre le ciel et la terre, il fait le pont, c'est le souverain pontife. Donc il fait le pont entre le monde des humains et le monde du divin. Mais il est aussi une invitation à nous relier par nous-mêmes, sans forcément passer par un intermédiaire, nous relier directement à notre sagesse. Donc, voilà, je pense que 2021 va continuer aussi à nous chahuter peut-être sur la question de l'autorité, mais une autorité peut-être plus spirituelle. Ne pas remettre son pouvoir intérieur non plus à voilà, un guide ou à quelqu'un d'extérieur qui va venir nous donner l'enseignement, la parole d'évangile, la route à suivre. Mais chacun être capable de revenir à sa propre guidance personnelle. Voilà, ce serait ma petite lecture, interprétation.
Waouh, merci beaucoup Hélène. Par curiosité, vous parliez tout à l'heure de spiritualité qui guide effectivement votre pratique du tarot,
Oui.
la spiritualité égyptienne
Oui.
et la voix de Marie-Madeleine.
Oui.
Vous pourriez nous en dire un peu plus pour
Oui, bien
ceux
sûr.
qui sont totalement novices sur le sujet.
Ouais.
Curieux.
Alors, c'est vrai que j'ai parallèlement à mon intérêt pour le tarot, donc depuis un certain nombre d'années maintenant, j'ai eu un intérêt pour les religions, l'histoire des religions, mais en tout cas, je dirais un intérêt ésotérique, hein, un intérêt mystique. Voilà. Je me définis comme une femme, oui, alors pas religieuse, hein, je veux vraiment faire la distinction, comme une mystique parce que l'appel de l'âme, l'appel de la spiritualité, l'appel de la transcendance, ça a toujours été quelque chose de très fort chez moi depuis que je suis enfant. Et quand j'ai commencé à découvrir le tarot, parallèlement, est arrivée sur mon chemin Marie-Madeleine, en tant que figure archétypale, en tant qu'énergie, en tant que conscience féminine. Alors, moi, je suis issue d'une famille, alors j'ai un père qui est athée et j'ai une maman qui, par contre, a été élevée dans le dogme catholique, etc. Donc, j'ai été brassée un petit peu par les deux énergies, mais j'ai quand même reçu une solide éducation catholique. Et j'avoue que ouais, à l'adolescence, j'ai été en rébellion contre tout ça. J'ai tout envoyé balader parce que ça ne me parlait pas du tout. Je trouvais ça très mortifère, très culpabilisant et je ne m'y retrouvais pas. Donc, j'ai envoyé valser un peu tout ça. Et alors, très étonnamment, c'est à la lecture du roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, que j'ai reconnecté avec la spiritualité chrétienne, en fait, la gnose chrétienne, l'ésotérisme chrétien. Et ça m'a présenté une figure de Marie-Madeleine qui m'a intriguée et que j'ai voulu approfondir. Alors, en plus, il se trouve que j'ai fait des études d'italien médiéval, puisque moi, j'étais donc professeure d'italien et que j'ai étudié la littérature italienne médiévale, et j'ai une solide connaissance aussi de tous ces textes anciens, des évangiles apocryphes, donc je suis allée chercher dans les textes. Et ce que j'ai découvert de Marie-Madeleine était pour moi aux antipodes de la femme, la prostituée, la pécheresse, la femme, la répudiée. Et au contraire, ce que j'ai découvert, c'était une femme, une initiée de haut rang, une femme très spirituelle, une femme qui était vraiment la porteuse et la gardienne du message christique originel, et qui représentait pour moi justement ce féminin bafoué par le dogme religieux patriarcal, puisqu'elle a quand même été le premier témoin de la résurrection, et je pense que ça n'a pas dû beaucoup plaire aux pères de l'Église qui ont pris soin de l'écarter ensuite de ce qui a été mis en place et qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le culte, le sacerdoce catholique est porté uniquement par des prêtres, et que les prêtresses, en fait les femmes, ont été évincées, même diabolisées par le dogme religieux. Et pour moi, Marie-Madeleine est un emblème. Elle est le porte-voix de cette conscience féminine bafouée. Je pense que c'est pour ça qu'elle parle à tant de femmes aujourd'hui, parce que elle nous montre le chemin de la femme à la fois charnelle, incarnée, amoureuse, passionnée, et de la femme spirituelle, et de la femme mystique, et de la femme qui est capable aussi de transmettre un enseignement, puisque moi je suis convaincue qu'elle enseignait aux côtés de Yeshua, aux côtés du Christ, et qu'elle était une femme extrêmement éveillée, spirituellement parlant. Et en même temps, elle a cette dimension très charnelle, très incarnée, très sensuelle, sexuelle même. Moi, c'est comme ça que je l'ai abordée de manière très empirique, très, très intime, très personnelle au départ. Et puis ensuite, j'ai beaucoup lu sur Marie-Madeleine. Et actuellement, depuis 2 ans, je me forme aussi... En tant que thérapeute et prêtresse de Marie-Madeleine sur la voie de la rose tantrique, où je me forme pour accompagner les femmes blessées dans leur intime, dans leur corps, dans leur sexualité, à travers voilà, un enseignement, une pratique à la fois thérapeutique, donc avec un cadre très thérapeutique issu voilà, des neurosciences, de la psychologie corporelle, etc., enfin de tout ça, et en même temps en y mettant le sacré, parce que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, ont vraiment besoin aujourd'hui de remettre du sacré dans leur vie, et pour moi Marie-Madeleine, elle s'adresse aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui à travers cette réconciliation, là aussi, c'est un mot qui est très important pour moi, de la chair et du sacré. Et que le dogme religieux, bon, je parle du dogme catholique parce que c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que tout ce qui est dogmatique en général, ça a tendance à nous enfermer. Je pense que le dogme religieux a diabolisé le corps, a diabolisé notamment le corps des femmes, la sexualité, et qu'il est très très important aujourd'hui de réhabiliter, de restaurer ce que la sexualité, le corps peuvent avoir de sacré. Et du coup, j'ai même réussi à faire des ponts et des liens entre ma pratique du tarot Et cette voix égyptienne, magdalénienne, à laquelle je me relie spirituellement, et à retrouver des messages communs et des passerelles entre ces trois voix qui finalement pour moi n'en sont qu'une. Et plus j'avance et plus je vois la cohérence et la beauté de ce chemin qui est le mien et que j'ai à cœur de partager aujourd'hui.
Waouh! Merci beaucoup, Hélène. C'était passionnant.
Avec plaisir.
Passionnant. Alors, Hélène, je rappelle le titre de votre livre, Tarot de l'unité, donc une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin, chez Dana Édition.
Ouais. Et j'y parle d'ailleurs de Marie-Madeleine hein, dans le livre, parce que pour moi, il y a des arcanes du tarot qui sont reliés à Marie-Madeleine très, très fortement. Et donc, voilà, il y a même une très, très belle illustration d'Agi Dörtistein, qui est mon illustratrice, mon amie, qui est tarologue aussi et qui est tatoueuse et qui travaille beaucoup avec cette dimension du féminin, du sacré, et qui a fait des illustrations absolument sublimes dans ce livre. Et ça, je tiens à le dire parce que le livre n'aurait pas la même puissance et la même portée s'il n'y avait pas eu les merveilleux dessins d'Agi. Voilà.
C'est vrai, c'est un très bel ouvrage. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous retrouverez toutes les illustrations à l'intérieur, dans le corps même de la retranscription, effectivement, du podcast. On vous mettra tout ça, les arcanes cités, les illustrations
super
livres et la meilleure façon, effectivement, d'aller encore plus loin et de poursuivre l'échange avec Hélène, c'est encore d'aller lire son livre.
Merci. Merci beaucoup, Amal.
Hélène, est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec ceux qui nous écoutent au début de l'année 2021? Qu'est-ce que voilà, merci pour l'interprétation tarologique, si on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Ouais.
qu'est-ce que vous auriez envie de partager de plus là avec ceux qui nous écoutent?
Avec les auditeurs. Bah, écoutez, moi j'aurais envie d'inviter, d'encourager chacun, chacune à cultiver sa joie, à cultiver le beau, le bon, le bien, le beau, le bio peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui participe du vivant, tout ce qui participe à nourrir cette joie que nous avons tous à l'intérieur de nous, et même si les temps sont durs et que je pense qu'on n'en a pas fini avec tout ça, puisque à mon sens on est vraiment dans une période de transition qui s'annonce je pense compliquée, mais je crois que c'est important de continuer à vibrer haut, à garder le plus de positivité possible, hein, même dans les moments difficiles. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça je crois que ce qui peut nous aider, c'est la joie, c'est l'humour et c'est la beauté. Voilà, de chercher toujours à mettre de la beauté dans nos vies, dans nos relations, dans ce qu'on vit. Et c'est aussi ce que je cherche à faire dans mes transmissions, que ce soit à travers le livre, mes enseignements, mes formations. C'est toujours cette notion de beauté. Pour moi, elle n'est pas que superficielle et physique, mais mettre du beau dans sa vie, ça passe par tout un tas de petits détails. Et je crois que ça fait partie des choses qui nous manquent cruellement et qui nous aideront à... J'espère, à passer à un autre paradigme. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène.
Merci, Amal. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et avec les auditeurs.
Merci, Hélène.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre d'Hélène Huc, Le Tarot de l'Unité, chez Tana Éditions. Si cela vous a plu, faites-le nous savoir. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !